Le FLNKS demande la libération de Christian Théin pour participer aux discussions à Nouméa d'ici une dizaine de jours. Après une semaine de bilatéral, la délégation indépendantiste a dressé le bilan de son séjour à Paris. En métropole, l'étau se resserre sur le principal suspect. L'ADN d'Owen, 23 ans, a été découvert sur le corps de la petite fille retrouvée morte ce week-end en région parisienne. Sa famille est en garde à vue. En Nouvelle-Calédonie, une situation financière alarmante mais pas désespérée. À Païta, les élus étaient réunis hier soir pour le débat d'orientation budgétaire. La mairie qui devrait prendre des mesures fortes pour réduire notamment sa masse salariale. L'OPT Safer, le centre de traitement des colis, tourne à plein régime pour absorber le flux de paquets arrivé la semaine dernière après plusieurs semaines de retard. Le sport et le Paris Saint-Germain qui dominent largement Brest en match de barrage aller de la Ligue des Champions. La hiérarchie est respectée, 3-0 pour le club de la capitale pour le moment. La météo sur le territoire, on fera un point dès le début du journal. Nette amélioration, la dépression tropicale s'évacue par le sud et le soleil revient petit à petit.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et à la une, l'avenir institutionnel.
Oui, Manuel Valls sera donc en Nouvelle-Calédonie à partir du 22 février et pour une huitaine de jours. Le ministre des Outre-mer estime que les discussions bilatérales ont permis de rétablir un climat de confiance entre l'État et les partenaires calédoniens. Tout en se voulant prudent, il précise qu'il vient sur le territoire afin de poursuivre les discussions selon un format qui reste à travailler, mais qu'il veut y consacrer du temps. Lors de cette visite, le ministre des Outre-mer doit échanger avec les partenaires politiques, mais aussi rencontrer la population et les acteurs économiques ou associatifs. Lors des discussions bilatérales qui se sont déroulées à Paris, il a rappelé à ses interlocuteurs que le socle et la base des discussions étaient les accords de Matignon et de Nouméa. « Ce chemin, le seul possible pour tous, nous devons l'achever », déclare Manuel Valls, qui ajoute que l'État doit rester impartial et qu'il ne peut y avoir de retour en arrière. Les différentes délégations calédoniennes vont donc maintenant rentrer dans les prochains jours sur le territoire. Mais avant cela, la délégation du FLNKS, qui ne s'était pas exprimée pendant toute la séquence des bilatérales, tenait une conférence de presse la nuit dernière à l'Assemblée nationale. Elle a eu lieu dans la salle Jacques Lafleur-Jean-Marie Tjibaou, une salle inaugurée en avril 2023 par la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Entouré du sénateur Robert Rowy, de Roch Ouamitan, d'Alozio Sacco et d'Omer Aneslin, le député Emmanuel Tjibaou a précisé le rôle que doit être celui de l'État, selon lui.
Je pense que c'était important de se placer en tant que partenaire dans la discussion et qu'après avoir subi les différents formats qui ont été imposés par les gouvernements successifs, aujourd'hui c'était la volonté affichée de clarifier le postulat de discussion dans la mesure où ces formats ils ont entraîné aussi une incompréhension sur la volonté de l'État d'inscrire la trajectoire et on a rappelé la position qu'on perçoit nous partielle de l'État. Je pense que c'est aussi le gage de l'expérience du passé qui fait qu'on se dit aujourd'hui il faut que l'État revienne dans son rôle d'acteur impartial dans le suivi du processus de décolonisation. Et pour ça, il y a nécessité de clarifier les postures et puis de s'avancer dans la discussion. Notre pays ne peut plus attendre.
Et concernant les négociations qui vont débuter dans une dizaine de jours maintenant à Nouméa, Emmanuel Tjibaou demande la libération de Christian Théin, leader de la CCAT, actuellement incarcéré à Mulhouse et qui depuis a été élu président du FLNKS pour qu'il puisse y participer. Interrogé sur les propos de Manuel Valls qui plaidait samedi à Bercy pour un compromis politique, Emmanuel Tjibaou estime que le seul compromis acceptable pour le FLNKS serait une souveraineté partagée à condition qu'elle soit transitoire.
Quand on parle de compromis, si on s'inscrit dans un cadre de décolonisation, ça voudrait dire qu'on demande à l'État d'accepter qu'il choisisse pour le mouvement de libération les modalités sous lesquelles il recouvre sa souveraineté. Nous, on dit qu'on est sur la phase qui est celle de la négociation. On a entendu souveraineté partagée. Pour nous, ça ne peut être qu'une phase transitoire. C'est là où on demande à l'État d'assumer ses responsabilités. On n'a pas changé de discours. On est en train de redécouvrir qu'on est indépendantiste. Quand on parle de compromis, c'est cette trajectoire-là que nous, on a engagée. On n'a pas signé pour autre chose. Donc si aujourd'hui, on doit négocier, sur quelle durée cette transition, elle se fait. Et après, on statue comme on a statué en 98 avec un vote, un scrutin d'autodétermination.
Des propos recueillis par notre correspondant à Paris, Xavier Robert. Le député Emmanuel Tjibaou précise que ses positions ressortent du 44e congrès du FLNKS à Saint-Louis.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. Selon vous, est-ce plutôt un bon signe que Manuel Valls passe 8 jours en Nouvelle-Calédonie parce qu'il veut consacrer du temps aux discussions? Si vous pensez que la durée de ce séjour est plutôt un bon signe, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. La réponse à notre question d'hier, alors qu'un sommet sur l'intelligence artificielle se déroule actuellement à Paris, 87% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS estiment que l'IA est surtout un danger. Ils ne sont que 13% à y voir surtout une opportunité. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à la question du jour. Alors on va revenir sur ce sommet de l'IA un peu plus tard dans ce journal. Mais avant cela, un point météo, Léana Colombo. Et ça s'améliore pour aujourd'hui puisque la dépression tropicale FEM s'éloigne peu à peu du territoire et emporte avec elle le mauvais temps.
Et oui, la dépression se trouve même actuellement à 150 km au sud-est de Nouméa. Après une nuit où de fortes averses, parfois orageuses, ont été constatées sur l'ensemble du territoire, nous assisterons donc à une accalmie générale. Le ciel restera toutefois couvert, mais le plus fort des précipitations est désormais derrière nous. Seuls le Grand Nouméa et l'île des Pins sont encore en vigilance jaune vent violent. Écoutez les précisions de Virgile Cavarero, prévisionniste chez Météo France Nouvelle-Calédonie.
On voit sur le radar que les fortes pluies qui nous ont concernés jusqu'à la nuit dernière maintenant sont décalées et c'est terminé sur la Grande Terre, sur l'île des Pins. Il y a encore une bande avec des pluies modérées qui passent sur l'Ifou et Marais, donc on a encore pour quelques heures, mais ça va se terminer dans la matinée. Voilà, les fortes pluies, c'est terminé. Au niveau du vent, le vent va souffler de nord-ouest aujourd'hui. C'est sur le sud-ouest, la pointe sud et l'île des Pins qui sera le plus fort. Il va atteindre 40 nœuds en rafale ce matin et mollir progressivement dans la journée. Le temps s'améliore dans l'ensemble parce que les fortes pluies se sont évacuées. Par contre, on va garder un ciel très nuageux sur la façade ouest et l'île des Pins.
La pluie est tombée principalement en province sud. Les cumuls les plus forts ont été constatés sur Rivière-Blanche dans le sud, avec 200 mm de pluie enregistrés en 6 heures dans cette station. Ces intempéries ont eu des conséquences sur les usagers de la route. À Bouraille, de nombreux radiers étaient submergés et la RT1 au nord, au niveau de la Cigogne, était impraticable hier soir encore. Mais l'eau est redescendue ce matin. Toutefois, la vigilance reste de mise. À Yatay et Lafoy, les routes sont désormais dégagées, contrairement à la sortie sud de Pointe-Boute qui reste encore submergé. Hier soir, un éboulement empêchait également le passage des voitures au niveau du col d'Amieux.
Merci beaucoup Léana Colombo. Il est 6h passées de 38 minutes après la publicité. On fera d'abord un point sur l'enquête concernant le meurtre de la jeune Louise, 11 ans, en région parisienne. Et puis on reparlera, je le disais, de ce sommet international sur l'intelligence artificielle à Paris.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Mais chérie, t'as pas fait à manger ?
Non.
Oh, mais t'avais dit que tu t'en occupais !
J'ai pas cuisiné, mais j'ai prévu. Je suis passé à la Maison du Pain.
Ah, leur vrai fait salade. J'adore.
Et maintenant, ils font les plats du jour, toute la semaine. Pratique pour le midi, et même pour le dîner, si t'as pas envie de cuisiner.
Retrouvez toutes nos actualités sur la page Facebook du Complexe Le 4, située au 186 rue Jacques-Yécaoué. Le 4, faites vos courses autrement.
Avec Centracor, les hauts, c'est la rentrée. C'est transformant. Youhou, c'est la rentrée. Bureaux, chaises, luminaires, rangements, textiles et mobilier, le tout à petit prix. Rendez-vous au Green Retail d'un Béamol pour une rentrée réussie. Plus d'infos sur la page Facebook Centracor NC.
RRB Matin, le journal, Nicolas Legrand.
Et l'étau semble donc se resserrer autour du suspect dans l'enquête pour le meurtre de la jeune Louise, 11 ans. Les enquêteurs ont en effet retrouvé l'ADN du suspect principal, Owen, 23 ans, dont la garde à vue a été prolongée. La police qui étudie maintenant cette piste avec minutie. Caroline Baudry pour Europe 1.
Absolument, cette piste semble très sérieuse, d'autant que le jeune homme a commencé à reconnaître son implication dans le meurtre. Les traits d'Owen avaient été identifiés par un voisin sur les images de vidéosurveillance. On y voit un homme à doudoune noire suivre Louise en direction de la forêt vendredi, peu avant sa disparition. Lors de son arrestation, il présentait des griffures sur les mains. Sur celle de Louise, vous le disiez, son ADN a été retrouvé. Il avait été d'abord entendu comme témoin dans l'affaire avec sa petite amie de 23 ans et ses deux parents, mais des incohérences dans les récits et les emplois du temps avaient encouragé les enquêteurs à changer de braquet. Tous les quatre sont en garde à vue, lui pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans, ses trois proches pour non-dénonciation de crime. Les parents d'Owen habitent dans le même quartier que ceux de Louise. Le jeune homme est décrit comme accro aux jeux vidéo. Il est connu de la police pour des affaires de vol et de violence.
Owen qui réside donc dans le même quartier que Louise à Épinay-sur-Orge. Et pour les habitants, c'est la consternation et l'incompréhension. Ils veulent maintenant des réponses.
C'est un gros soulagement.
Mais on veut surtout comprendre pourquoi et comment. Enfin, en fait, on espère que la personne qui a fait ça va parler, parce qu'on aimerait vraiment comprendre pourquoi elle a fait des choses aussi cruelles, horribles et...
À une fille qui...
Voilà, et c'est impardonnable de faire des trucs comme ça. Voilà. Du coup, on espère vraiment qu'elle va parler.
On pense toujours que ça arrive aux autres, mais quand c'est dans notre rue, bah, ça fait tout drôle. Et ça remet en question toute notre organisation en tant que parents pour le fait de laisser nos enfants aller à l'école tout seuls. On va s'adapter. Hein. J'ai prévu de prendre des cours de self-défense pour moi et mes enfants. C'est bête, mais faut en arriver là.
De nombreuses personnes se sont rendues devant le collège de la jeune fille pour déposer des fleurs ou des bougies en hommage. Selon la volonté de la famille, il n'y aura pas de marche blanche d'organiser.
À Radio Rythme Bleu, 6h41.
Emmanuel Macron clôturait ce matin pour nous le salon sur l'intelligence artificielle au Grand Palais à Paris, devant un parterre de dirigeants étrangers, dont Ursula von der Leyen, qui pour le niveau européen a annoncé la levée de 200 milliards d'euros pour l'IA. Improvisation de dernière minute, en revanche, le président a demandé à J.D. Vance, le vice-président américain, de clôturer. Et là, rien ne s'est passé comme prévu, Jacques Serret.
Oui, sous le regard d'Emmanuel Macron et d'Ursula von der Leyen, J.D. Vance ne se prive pas de défendre son modèle, le modèle américain.
Nous avons besoin de régimes réglementaires qui encouragent la création de la technologie plutôt que des régimes qui l'en empêchent. Aux États-Unis, nous sommes à l'avant-garde. Ce n'est pas un accident parce que nous favorisons un environnement réglementaire qui permet l'expérimentation.
La technologie américaine reste ce qu'il y a de mieux dans le monde, insiste le vice-président des États-Unis devant le parterre d'entrepreneurs du monde de la tech.
L'administration Trump pense que les applications seront innombrables dans la création d'emplois, la santé, l'expression libre, la sécurité nationale et autres.
Et après ce discours anti-réglementation, J.D. Vance ne s'attarde pas sur place, quittant le Grand Palais sans écouter la prise de parole d'Emmanuel Macron. Le vice-président américain ne signe d'ailleurs pas la déclaration finale adoptée par une soixantaine de pays et plaidant pour une intelligence artificielle durable et inclusive.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1. L'actualité dans la région Pacifique enfin. Au Vanuatu, le président du Leaders Party, Jotam Napat, a été nommé Premier ministre à la suite d'un vote du Parlement. Le nouveau Premier ministre du Vanuatu a 52 ans et il est originaire de Tana. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Jotam Napat était le seul candidat en lice au poste de Premier ministre après que sa nomination a reçu le soutien du chef de gouvernement sortant, Charles Salwai, et du président de l'Union des partis modérés, Ismaël Kalsakao, lui-même ancien Premier ministre. 50 des 52 membres du nouveau Parlement ont soutenu la candidature de Napat et deux bulletins nuls ont été enregistrés. L'ancien chef de la diplomatie Nivanuatu devient donc le cinquième homme politique à diriger le pays en 4 ans. Il est vrai que le Leaders Party qu'il dirige détient le plus grand nombre de sièges, à savoir 9, au sein de l'Assemblée, ce qui lui a permis de signer un pacte de coalition avec 4 autres partis de taille moyenne, à savoir le Vanuatu Party, le groupe Yauco, le mouvement de réunification pour le changement et le parti Terre et Justice. Au total, le groupe ainsi formé possède 32 sièges au Parlement, alors que 26 sont requis pour y détenir la majorité. Reste à savoir si cette majorité sera suffisamment solide pour rester unie. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il est 6h passé de 45 minutes. Vous écoutez Radio Rythme Bleu. On va marquer une nouvelle pause dans ce journal avant de voir la suite de l'actualité en Nouvelle-Calédonie et notamment la situation budgétaire à Païta, puisque hier, il y avait la réunion du conseil municipal pour le débat d'orientation budgétaire. On y revient juste après la pub.
RRB, 6h-8h, Nicolas Legrand.
Attention à tous les amoureux des animaux, c'est la folie des repas chez Cheval Distribution. Friskies, Supercoat, One et Félix, vos marques préférées en promotion à petit prix jusqu'au 23 février. Ayez le réflexe Cheval Distribution, vos deux animaleries jardinerie à Bellevue et à Apogoty. Votre repas du soir, un déjeuner en famille, un anniversaire entre amis, Cégel, c'est la solution de l'entrée au dessert. Cégel vous accompagne au quotidien comme pour vos grandes occasions. Des surgelés de qualité professionnelle en format pratique et économique. Cégel pour tous les jours et les grands jours.
Rendez-vous au 4, 186 rue Jacques-Yécaoué, 4e kilomètre. Le 4, faites vos courses autrement. Saint-Valentin. Offrez-lui un bijou Créator. Des nouveautés, des promos, c'est chez Créator. Trois adresses, Créator Alma, 7e kilomètre et Païta. Créator, le plus grand choix de bijoux de Nouvelle-Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite de votre journal avec le reste de l'actualité sur le territoire, on retrouve Nicolas Legrand.
Et à Païta, la situation financière est donc alarmante, mais pas désespérée. C'est ce qui ressort du débat d'orientation budgétaire qui se tenait hier soir en la Maryland à Colombo.
Des échanges qui s'inscrivent dans un contexte fragile depuis les émeutes de mai dernier, avec de fortes contraintes pour les finances de la collectivité. Un DOB qui permet de constater la situation de l'année 2024 et de préparer l'adoption du budget 2025. L'an passé, la commune a dû diminuer son budget de 800 à 900 millions de francs, avec forcément des répercussions sur l'année 2025. Antoine Romain est le directeur du cabinet de la mairie de Païta.
On aura des difficultés en 2025, tant en termes d'investissement que de fonctionnement. Notre investissement va forcément diminuer puisque les recettes fiscales de la Nouvelle-Calédonie diminuent, ce n'est pas de notre fait, et notre fonctionnement va diminuer également. Donc on fera deux gros efforts cette année. Par exemple, en matière de personnel, on supprime des postes. C'est la première fois que ça arrive depuis des années, puisque la population, elle, continue à augmenter. On ne renouvelle pas certains postes avec des gens qui partent à la retraite ou qui bougent de collectivité. On ne renouvelle pas les CDD non plus. Donc, il y aura des difficultés. Peut-être même une baisse de la qualité du service public. En revanche, il y a des choses qu'on a tenu à conserver. On n'a pas eu d'augmentation significative ni des cantines, ni de la garderie scolaire. Et puis après, l'autre conséquence est en matière d'investissement. On va drastiquement diminuer l'investissement de la commune. On est obligé d'arrêter certains projets, notamment certains projets routiers.
Dans ce débat d'orientation budgétaire, les élus n'ont pas parlé de la reconstruction, tout simplement parce que la commune est dans l'attente des financements de l'État.
Alors a priori, puisque le PLF a été voté la semaine dernière, il devrait être rendu public dans les jours qui viennent. On espère qu'à l'occasion de la visite du ministre des Outre-mer à partir du 22 février, on aura de bonnes nouvelles de ce côté-là. Et dans ce cas-là, on pourra réinjecter de l'investissement dans notre budget au travers sans doute d'une décision modificative pour pouvoir reconstruire ce qui a été détruit pendant les émeutes, c'est-à-dire une partie de notre école, une partie de notre mairie, mais également le centre de première intervention de Tontouta, et puis l'éclairage public, une partie des routes qui ont été détruites. Ça, pour l'instant, ça ne figure pas dans le budget ou dans la préparation du budget. On attend d'avoir la certitude d'avoir les financements pour pouvoir engager ces dépenses.
Un débat d'orientation budgétaire acté par le conseil municipal de Païta hier soir qui annonce donc le budget primitif 2025, budget qui sera examiné le 4 mars prochain.
Et nous reviendrons sur cette réunion du conseil municipal à 7h30 puisque le maire de Païta, Marilyn D'Arcangelo, sera en effet notre invité du matin sur Radio Rythme Bleu, l'occasion de faire aussi un point sur la préparation de la rentrée.
Suivez les pages rentrées avec Bureau Vallée.
La rentrée à prix fou, c'est chez Bureau Vallée Magenta. Le sac à dos Eastpak Padded Packer est à 5900 francs. Et pour une rentrée encore moins chère, Bureau Vallée rachète votre ancien cartable en bon état jusqu'à 1500 francs en bon d'achat. Offre valide jusqu'au 17 février 2025.
Bureau Vallée, on met la barre très haut et les prix très bas.
Un état des lieux précis de la rentrée scolaire, c'est ce que nous vous avons proposé hier midi dans l'émission Citoyen, à laquelle ont participé la membre du gouvernement en charge de l'enseignement Isabelle Chamorro, mais aussi le vice-recteur Didier Vindatich, Léana.
Les conditions de sécurité, le soutien de l'État, les objectifs pédagogiques, les questions pratiques. Nous avons évoqué tous les aspects de cette rentrée 2025 qui est forcément une rentrée particulière après une année 2024 difficile. Elle se fera dans de bonnes conditions grâce au travail de l'ensemble des équipes sur le terrain, ont souligné nos deux invités. Une rentrée marquée aussi par une baisse globale des effectifs qui a plusieurs raisons, a expliqué Isabelle Chamorro.
On a cette année un nombre d'élèves attendu qui est de très précisément 62 660 élèves, avec une différence quand même par rapport à 2023 de près de 2000 élèves. Alors on constate qu'il y a une forte baisse globalement de nos effectifs. Elle a été enclenchée en 2012. Alors c'est un mélange, hein, c'est un mélange de deux raisons. Une baisse démographique, mais il y a aussi bien sûr la cause des départs. Et donc ça s'est vraiment conforté depuis mai 2024 malheureusement. C'est important de le dire parce que par exemple depuis 2012 nous avons moins 3000 élèves dans le premier degré, dans le primaire, et on en attend moins 2000 d'ici 2030. Alors 2030 c'est demain. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de places disponibles, notamment dans nos collèges, ce qui nous obligera à revoir notre carte scolaire également.
Et à cette baisse des effectifs, il faut ajouter des mouvements de population assez sensibles qui se sont traduits par des transferts d'élèves d'une province à l'autre, a précisé le vice-recteur Didier Vindatich.
Il y a eu un certain nombre de migrations internes, en effet, sur la Grande Terre vers les îles. On a vu que très vite, les mouvements s'étaient stabilisés. Donc, on a des chiffres au mois de décembre qui montraient qu'effectivement, il y avait des populations qui tendaient à se resédentariser, notamment dans les îles. C'est pour ça qu'on a ouvert des classes, notamment au lycée de Lifou, et également sur les collèges de la côte Est. On a ouvert des classes, notamment à Canela aussi. Et ensuite, évidemment, il y a eu quelques départs qu'on évalue aujourd'hui à 1000. Et donc, on gère un mouvement démographique structurel de repli démographique et qui a été accentué quand même par cet aspect-là.
Au-delà de la fluctuation des effectifs, il a fallu aussi préparer cette rentrée en tenant compte des dégâts commis par les émeutiers sur de nombreux établissements scolaires, notamment dans les communes de l'agglomération. Il a donc fallu s'adapter, nous a dit Isabelle Chambreau.
Nous avons le lycée Petro Aititi qui a quasiment été entièrement détruit. Donc l'année dernière, on avait déjà pris des dispositions pour dispatcher des élèves dans d'autres lycées. Je voudrais rappeler quand même qu'il y a eu des collèges de la province sud qui ont été partiellement saccagés, d'où la fermeture de Rivière-Salée. Les communes ont été fortement impactées sur Nouméa et sur Dimbéa avec des écoles qui sont détruites. La bonne nouvelle, j'ai participé au séminaire économique qui a eu lieu ce week-end, c'est que l'État a confirmé l'enveloppe dédiée à la reconstruction avec 100% de prise en charge pour nos établissements. Donc sur la carte scolaire, il y a eu des mouvements classiques et puis il y a eu une confortation de ce qu'on a vu l'année dernière pour dispatcher les élèves. Et sur Petro Aititi, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que cette année, on va pouvoir réouvrir des ateliers et donc réaccueillir aussi sur site un certain nombre d'élèves.
Isabelle Chambreau a tenu à souligner que l'intervention de l'État, que ce soit en masse salariale ou en crédit de reconstruction, avait permis d'épargner le secteur de l'enseignement, notamment le secondaire, sur le plan des finances. Dans cette émission, nous avons aussi parlé des objectifs pédagogiques, des questions de transport et de sécurité, des projets à venir. L'intégralité de l'émission est à retrouver sur notre site internet rrb.nc.
C'était les pages spéciales rentrée avec Bureau Vallée.
La rentrée sans stress, c'est sur le site bureauvallée.nc. Téléchargez votre liste scolaire directement sur le site bureauvallée.nc et notre intelligence artificielle s'occupe de tout. En trois clics, votre panier est prêt. Livraison ou retrait en magasin, c'est rapide et ultra simple.
Bureau Vallée, on met la barre très haut et les prix très bas.
Mieux accompagner les projets innovants, c'est l'objectif de la convention de partenariat signée hier matin entre la station N et la Société Générale. Les deux établissements vont ainsi travailler de concert au service des acteurs de la tech et du numérique. La banque qui pourra ainsi apporter un concours financier mais aussi technique, selon Christopher Gigès, membre du gouvernement en charge de l'économie.
On est dans une phase de diversification de l'économie calédonienne et ça a été dit au forum organisé par l'État que la diversification est un élément important. Mais pour financer cette diversification, ce n'est pas que les aides publiques, on a besoin aussi d'un financement privé. Elle s'engage déjà à un versement d'une subvention pour la station N pour favoriser l'essor des entreprises de la tech, mais aussi à amener tout son savoir-faire et sa connaissance en matière de financement de projets. Sur des projets particuliers, on n'a pas forcément de chiffre d'affaires au début et donc on a besoin d'un accompagnement spécifique et d'avoir une banque qui nous accompagne à la fois financièrement mais également sur son savoir-faire, c'est un élément essentiel.
Une convention importante également pour la Société Générale, selon son directeur général Ismaël Zitouni.
Le but de cette convention, c'est d'avoir un vrai partenariat et qu'on fera vivre avec le gouvernement, la station N et la Société Générale. C'est de faire rencontrer des clients, des collaborateurs, mais aussi tout un environnement, un écosystème fertile sur le territoire pour faire émerger des projets et initiatives locales. Effectivement, on y croit. On a alors notamment le groupe Société Générale, puisque ça fait partie une de nos valeurs, donc l'innovation. On accompagne ceux qui construisent le monde aujourd'hui pour demain. On a une ambition d'accompagner les projets innovants sur le territoire.
Et en contrepartie, la Société Générale pourra, par exemple, utiliser les locaux de la station N pour ses événements. L'OPT poursuit ses efforts pour délivrer les colis au plus vite. Depuis décembre dernier, le service postal fait face à des problèmes d'acheminement aérien. Exceptionnellement, un bateau a même été affrété pour transporter 10 tonnes de colis. Ce sont donc 88 palettes de fret qui sont arrivées en Nouvelle-Calédonie le 30 janvier. Place maintenant au traitement des colis avant de les distribuer, explique Isabelle Blanc-Mattet, directrice du service postal de l'OPT.
On a beaucoup d'arrivées ces derniers jours. On fait au mieux, on a nos agents qui sont mobilisés pour traiter dans les meilleurs délais possibles. On tourne à peu près en traitement, on a à peu près à 2 tonnes jour qu'on arrive à traiter, vraiment quand on a tous les moyens qui sont là, sachant qu'on est bien sûr sur une période encore un peu de vacances scolaires, donc on a aussi nos effectifs à gérer, mais on tourne entre 1,5 tonne et 2 tonnes de traitement par jour.
Une fois tous les colis de ce début d'année distribués, les acheminements aériens en provenance de la métropole devraient être plus rapides. Et concernant la Nouvelle-Zélande, une liaison par bateau devrait être opérée prochainement. Il est 6h56, vous écoutez RRB, on va marquer une dernière pause publicitaire avant de voir toute l'actualité sportive.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Vendredi 14 février, c'est la Saint-Valentin. Pensez à réserver votre table au restaurant Le Bilboquet Plage au 26 46 60. Retrouvez les suggestions spéciales Saint-Valentin sur la page Facebook Le Bilboquet Plage.
Ça y est, c'est la rentrée. Nouveau cahier, nouveau défi. Et toujours Milo pour t'accompagner dans ton aventure. Au petit déjeuner ou au goûter, Milo, c'est l'énergie qu'il te faut. Parce qu'avant ou après une journée bien remplie, ton Milo, c'est sacré. Un bon chocolat Milo et c'est reparti. Milo, ton allié pour une rentrée de champion. Bonne rentrée à tous.
Milo, l'énergie des champions.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
La suite de votre journal avec le sport, on retrouve Nicolas Legrand.
Du football à la une et on jouait ce matin les matchs de barrage aller de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain qui se déplaçait en Bretagne contre Brest. Une victoire des Parisiens 3-0. Et puis à partir de 7h, plusieurs matchs à suivre. Manchester City accueillera le Real Madrid, la Juventus Turin, le PSV Eindhoven et le Sporting Portugal accueillera le Borussia Dortmund. Du tennis et direction Marseille pour le premier tour de l'ATP 250. Richard Gasquet a été battu dès le premier tour par Alexander Bublik, 6-4, 6-4. Lucas Vanhaché a battu son compatriote Benjamin Bonzi en 3-7. Pardon. Manuel Guinard a lui été éliminé par Jean-Lennard Struff. Clément Chidek a perdu face à l'Allemand Zizou Bergs en 2-7. Et Quentin Lee s'est opposé en ce moment au Chinois Xing Zhang Zhang. Chez les hommes toujours, une partie du circuit mondial est à Buenos Aires. Corentin Moutet jouera ce matin contre l'Espagnol Munar. Et Hugo Gaston retrouvera lui l'Argentin Coria. Et à Delray Beach en Floride, Arthur Hinderknecht affronte le Canadien Gabriel Diallo. Et puis enfin à Doha, au deuxième tour du tournoi WTA chez les femmes, Caroline Garcia a été sortie par l'Italienne Jasmine Paolini, 6-3, 6-4. Et on termine avec le sport sur le territoire et la Ligue calédonienne d'athlétisme qui a un nouveau président. Après deux mandats consécutifs, Paul Poignewa est remplacé par Jérôme Troya, président de Trakense, Léana Colombo.
Et Jérôme Troya est investi depuis quelques temps déjà dans la vie sportive calédonienne. Il est effectivement le président de Trakense, association qui possède plus de la moitié des licenciés en athlétisme du territoire. Mais Jérôme Troya est aussi un athlète de haut niveau puisqu'il a participé l'an dernier au championnat du monde Masters de décathlon. Il souhaite redistribuer les cartes en Calédonie, continuer de suivre et d'accompagner les champions, mais aussi donner plus de chances et d'opportunités aux autres licenciés, ceux du Grand Nouméa, mais aussi les Broussards.
Il fallait absolument que l'on change de gestion, c'est-à-dire qu'il y a des priorités qui n'étaient pas les nôtres. Je dirais tout en respectant le haut niveau ou le pseudo haut niveau. Il faut ne pas oublier également la base. Ils veulent faire du sport, ils veulent faire de l'athlétisme. Alors mon leitmotiv à moi, c'est d'aller chercher également Bruce, ces braves gens, qu'ils soient adultes ou enfants, se servir également des compétences de l'UNSS pour les écoliers, aller chercher les écoliers. Il y a 5000 écoliers qui sont là et qui ne demandent qu'à en découvrir en compétition. Mais en tout cas, dans le but que tout le monde s'épanouisse autour, voilà, et qu'on découvre de nouveaux talents.
Paul Poignewa était lui aussi et surtout un athlète de haut niveau au palmarès inégalé. 8 titres de champion de France de saut en hauteur, améliorant à 3 reprises le record de France. Il avait également participé aux Jeux Olympiques de Montréal en 1976. Mais c'était aussi un entraîneur, celui de Frédéric Hérin notamment, l'amenant au titre de champion de France de saut en hauteur en 2012. Puis Paul Poignewa était devenu président de la Ligue calédonienne d'athlétisme en 2016. 9 ans plus tard, il quitte son poste, mais continuera d'œuvrer, comme il l'a toujours fait, pour l'athlétisme sur le territoire.
Toujours. Mais toujours dans le milieu de l'athlétisme, puisque nous sommes les fins serveurs de l'athlétisme. Nous avons toujours fait ça depuis des décennies et on continuera toujours à amener nos jeunes gamins qui sont là à l'heure actuelle, certains sur le haut niveau. Et on va aller suivre jusqu'au bout parce que c'est une aventure qui continue. Et on ne va pas s'arrêter là parce que c'est pas parce que moi j'étais président pendant 2 mandatures et puis là je m'arrête. Et il y a la suite qui sera par un autre président. Peut-être qu'ils vont en faire mieux que nous, peut-être. Après, on ne sait pas. Et moi, je vais suivre les athlètes qui étaient là sur l'axe 4.
Et notez que le nouveau bureau planche déjà sur l'organisation du marathon international de Nouméa, annulé l'an dernier. Il aura lieu cette année, le 31 août.
Et j'ajoute que l'interview complète de Jérôme Troya, le nouveau président de la Ligue calédonienne d'athlétisme, est à retrouver sur notre site internet et notre page Facebook.
la météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et ça va s'améliorer au fur et à mesure de la journée.
Oui Nicolas, nous sommes quand même en vigilance jaune avec un vent violent. Donc pour ce matin, sur le sud-ouest, la pointe sud et l'île des Pins, pour un vent orienté nord-ouest entre 20 et 25 nœuds et des rafales prévues donc jusqu'à 40 nœuds. Ce matin, sur la côte est, Belle Épée au Loyauté, le soleil s'imposera en matinée. Sur les autres régions, les nuages resteront bien présents. Ailleurs, au Loyauté, notamment une bande d'averses modérée finira par s'évacuer. Sur la côte ouest, île des Pins, des averses résiduelles faibles se produiront par moments. Sur le sud-ouest, la pointe sud et l'île des Pins, on parle du vent. À présent, il sera orienté nord-ouest pour ce matin, donc compris entre 20 et 25 nœuds, des rafales prévues jusqu'à 30-40 nœuds. Ailleurs, il baissera d'un cran entre 15 et 20 nœuds et parfois des rafales à 30 nœuds. Cet après-midi, au Loyauté, le ciel se dégagera et le soleil s'imposera. Sur la côte est, des nuages déborderont du relief. Sur les autres régions, les passages nuageux se maintiendront, mais les averses deviendront rares. De Nouméa à l'île des Pins, le vent, lui, orienté ouest pour cet après-midi entre 20 et 25 nœuds, avec des rafales à 30-35 nœuds. Ailleurs, il soufflera ouest-nord-ouest à entre 15 et 20 nœuds. Les températures maximales sont comprises, elles, entre 30 et 32 degrés en général.
Merci beaucoup Thierry, merci à tous d'avoir suivi ce journal.